L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Maléléo, c'est l'heure du journal.
Sans plaisir de vous recevoir, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal. D'abord les titres. Des ans après la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les taux globaux des mises en œuvre restaient inchangés à 35%. Ceci ressort du rapport d'évaluation du mois de juillet par les baromètres des accords de paix en Afrique, qui signale que les quelques évolutions n'ont pas permis d'élever les principaux blocages. Ces évaluateurs appellent les deux parties à respecter leur engagement. Et à quelques semaines de la rentrée scolaire 2026-2027, nombreux parents de la province du Sud Kivu peinent à réunir les moyens nécessaires pour assurer une bonne préparation. De milieux parmi eux sont toujours dans l'impossibilité de trouver de nouvelles occupations 2 ans après l'arrêt des activités. Ces derniers plaident pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. C'est tout pour les titres, mesdames, messieurs. Myriam Moufano, c'est mon nom, je sais la présentation. Alain Zara sur la mise en onde. Nous l'avons annoncé au sommaire, la deuxième année de mise en œuvre de l'accord de paix de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda débute sous les signes des stagnations. C'est les constats dressés par les rapports d'évaluation du mois de juillet 2026, publiés par les baromètres des accords de paix en Afrique, qui fait état de l'absence d'avancées significatives dans l'exécution des engagements souscrits par le parti. N'est-ce pas, Omar Modekereza?
Selon ces rapports, les taux globaux de mise en œuvre de l'accord reste inchangé à 35%, soit 105 points sur 300, comme à la fin du mois de juin. Sur les 30 tâches identifiées, 22 avaient déjà atteint au niveau d'exécution, mais aucun projet substantiel n'a été enregistré entre le 1er et le 31 juillet. Les baromètres relèvent néanmoins quelques avancées, notamment la poursuite des initiatives diplomatiques, la mise en place des mécanismes conjoints renforcés de vérification, l'annonce d'un dialogue national inclusif par le président Félix Tshisekedi et la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement congolais et les FDLR sur leur démobilisation et leur dissolution. Toutefois, ces évolutions n'ont pas permis d'élever les principaux blocages. Les rapports évoquent des divergences persistantes entre Kinshasa et Kigali sur le calendrier des retraits des forces de défense rwandaises, les modalités de neutralisation des FDLR et le mécanisme de vérification des engagements sécuritaires. Il souligne également la poursuite des affrontements dans l'est de la RDC, la persistance de la crise humanitaire aggravée par les déplacements des populations, les difficultés d'accès à l'aide humanitaire, la pénurie des médicaments essentiels dans certaines parties du Nord Kivu et du Sud Kivu, ainsi que l'épidémie d'Ebola qui sévit dans la région. Les documents attirent aussi l'attention sur la lenteur du processus de Doha, la multiplication des initiatives de médiation, tout en mettant un accent sur les besoins d'une meilleure coordination entre les différents acteurs internationaux engagés dans la recherche d'une solution durable à la crise. Face à ces défis, le baromètre recommande notamment à la RDC et au Rwanda d'accélérer la mise en œuvre de leurs engagements sécuritaires, de renforcer la coopération avec les mécanismes de vérification, de poursuivre les mesures des désescalades et de favoriser un dialogue politique inclusif avec l'appui des partenaires régionaux et internationaux. Pour les baromètres, la stabilité des indicateurs entre juin et juillet 2026 fait craindre l'ouverture d'une nouvelle phase de stagnation dans la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington, alors que les populations de l'Est de la RDC continuent d'attendre des progrès concrets en matière de paix et de sécurité.
Merci Omar Modekereza. Et pendant ces temps en province du Sud Kivu, face à la crise économique qui frappe de ménage, de nombreux parents peinent toujours à réunir les moyens nécessaires pour assurer une meilleure préparation dès la prochaine année scolaire dont le débit est fixé au 1er septembre prochain. Dans la ville de Bukavu par exemple, de milliers de parents sont toujours dans l'impossibilité de trouver des nouvelles occupations près de 2 ans après l'arrêt des activités de plusieurs organisations nationales et internationales ou encore l'inactivité des services étatiques où ils intervenaient. D'autres qui avaient trouvé refuge dans le petit commerce ou encore dans le débrouillardise, comme par exemple dans le site minier de Lomera, s'y trouvent toujours confrontés au chômage ou à l'improductivité. Dans différents territoires, la situation s'empire encore, notamment à la suite de la persistance des affrontements qui empêchent l'accès des humanitaires ou des cultivateurs à leurs champs, ainsi que la présence de barrières illégales qui ne font que réduire l'inactivité des différents centres commerciaux. À moins d'un mois de la rentrée scolaire, des parents rencontrés de la ville de Bukavu partagent leur peine dans un contexte aussi particulier. Si l'année passée était encore supportable, ils indiquent vivre le pire aujourd'hui, tout en plaidant pour le retour de la paix à l'est de la RDC et la reprise des activités. Ils appellent le personnel gens de bonne volonté qui auraient un surplus, de penser à ses parents qui traversent des situations particulièrement difficiles. Certains d'entre eux s'expriment au micro de Radio Maïndéléo.
La guerre a affecté nos familles, la guerre a affecté nos communautés, la guerre a affecté nos activités, la guerre a tout bloqué. Beaucoup de parents ont perdu leurs activités, y compris moi. Les revenus ont diminué et l'insécurité complique les déplacements. Dans ces conditions, il devient difficile de préparer la rentrée scolaire et certains enfants risquent de rester à la maison faute de moyens.
Je trouve que cette rentrée est trop timide. Il n'y a pas de mouvement, rien ne montre qu'il y aura la rentrée. Nous en parlons parce que nous connaissons que la rentrée est prévue en septembre. Il n'y a pas même d'activité économique, vraiment rien ne va. Si la rentrée sera effective, on va voir comment payer les uniformes, les cahiers et bien d'autres.
Aux autorités, je demanderai de créer encore des activités qui peuvent embaucher les gens. Aux personnes de bonne volonté, de ne pas garder ce qu'ils ont et plutôt de partager avec d'autres familles. Si vous avez plus de cahiers, vous donnez aux autres.
C'était là le parent de la ville de Bukavu au micro des radios Maïndéléo. Mesdames, messieurs, en cours de diffusion, c'est l'édition du journal aussi Radio Maïndéléo. Merci de nous rester fidèles.
Suivez Radio Maïndéléo en direct partout dans le monde sur www.radiomaïndéléo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maïndéléo. Radio Maïndéléo, c'est vous.
Changeons de chapitre à présent et parlons santé dans cette édition du journal. Les autorités sanitaires sont appelées à s'activer pour que le changement des vaccinations contre la rougeole débute dans un délai précis. Ceci va permettre aux enfants d'accéder à ces vaccins, ainsi réduire le nombre de cas de malades et décès liés à cette maladie qui nécessite d'être enregistrée dans différentes zones de santé de la province du Sud Kivu. Détail, Hélène Boudjiriri.
Cette recommandation est des parents de Bukavu qui présentent leur indignation face aux multiples reports de la campagne de vaccination contre la rougeole. Ces parents déplorent de voir que cette campagne de vaccination est déjà reportée plus de 3 fois alors que la province continue d'enregistrer de nouveaux cas. Ils rappellent que depuis le début de l'épidémie, plusieurs décès ont été enregistrés et disent ne pas comprendre les raisons qui empêchent le démarrage de la vaccination alors que plusieurs annonces ont été faites. À cet effet, ils demandent une communication claire quant à ce, afin de permettre aux parents de comprendre ce qui bloque. Un parent rencontré en parle.
Cela inquiète parce que ça fait déjà un mois que nous avons aussi les communiqués qu'il y aura vaccination contre la rougeole. On se demande pourquoi ces reports persistent et ça dure beaucoup longtemps. Si la DPS allait peut-être précipiter ou alors si pas précipiter, préciser au moins la population sur la question des reports qui se fait chaque fois parce que notre population voulait assez nos enfants soient vaccinés contre cette épidémie qui vraiment a ravagé beaucoup de nos enfants.
En réaction, la division provinciale de la santé à travers son chargé de communication demande aux parents de faire confiance aux autorités sanitaires. Le docteur Claude Baizir rassure que le vaccin sera administré dès que toutes les dispositions seront réunies et que toutes les provinces concernées seront servies. On écoute.
C'est que vrai, beaucoup de parents avaient l'espoir que c'était une occasion pour les enfants bénéficier de la vaccination contre la rougeole. Les parents devront seulement nous faire confiance. Le vaccin est bien gardé parce que nous avons des endroits où le vaccin est gardé. Le vaccin ne va pas s'abîmer. Donc, c'est la question, c'est que les parents patientent un peu, 2-3 jours, pour faire une bonne organisation parce qu'il faut que tous les enfants soient bien vaccinés.
Notez que depuis le début de l'année, la province du Sud Kivu a enregistré plus de 33 000 cas de rougeole avec plus de 500 morts, selon les statistiques de la division provinciale de la santé.
Merci Hélène Boudjiriri. Et les cas de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans continue d'augmenter d'une manière préoccupante à Kiliba, dans la plaine de la Ruzizi, en territoire d'Uvira au Sud Kivu. Au cours d'une campagne de dépistage organisée à la fin du mois de juillet, sur un total de 119 enfants examinés, 20 cas de malnutrition aiguë sévère avec complications médicales ont été enregistrés, 16 cas de malnutrition aiguë sévère sans complications médicales et 40 cas de malnutrition aiguë modérée ont été enregistrés. Détail avec Alan Kabika.
C'est ce qu'indique le docteur Imani Luhande Wari, médecin directeur du centre hospitalier d'Equilibre à CEPAC, dans un entretien accordé à Radio Maïndéléo mercredi 5 août 2026. Parmi les facteurs à la base de cette augmentation figure l'insécurité persistante, qui limitent l'accès aux champs pour les cultivateurs ou encore les mouvements des populations, les difficultés d'accès aux soins de santé et les effets du changement climatique qui fragilisent davantage le ménage. Dans la zone, les affrontements armés ont contraint de nombreuses familles à abandonner leurs habitations pour trouver refuge dans des sites déplacés où elles ont été contraintes de vivre dans des conditions précaires marquées par l'insuffisance alimentaire, les manques d'eau potable et l'accès limité aux services de santé. À cela s'ajoute l'insuffisance des pluies depuis les mois de mars 2026, entraînant la baisse des récoltes et par ricochet une diminution de la disponibilité des denrées alimentaires, alors que la majorité des habitants dépend essentiellement de l'agriculture pour assurer sa subsistance. Tout en saluant l'appui des différents partenaires humanitaires engagés dans la lutte contre la malnutrition, le docteur Imani Luhandewari plaide pour le renforcement des interventions nutritionnelles afin de prévenir une aggravation de la crise. On l'écoute.
Dans la plaine de la Rosisie en général, dans les territoires d'Ouvira et en particulier Kiliba, nous connaissons ces derniers temps beaucoup de cas de la malnutrition. Pourquoi ça? Je crois que plusieurs pistes peuvent être exploitées. On peut d'abord parler de l'instabilité sécuritaire, il y a un déplacement de la population, il y a les facteurs climatiques, comme c'est une population qui vit essentiellement de l'agriculture, et vu qu'il n'y a pas de variations saisonnières, ça impacte sur les récoltes. Et jusque-là, nous n'avons pas encore enregistré un cas de décès et l'évolution est bonne. Ces cas ici de la malnutrition sévère aiguë avec complications médicales, tous sont pris gratuitement au centre hospitalier de Kiliba.
Il appelle également les parents et les tuteurs des enfants souffrant de malnutrition à se rendre sans tarder au centre hospitalier CEPAC de Kiliba où la prise en charge nutritionnelle et médicale est entièrement gratuite.
Pendant ces temps, les mouvements citoyens bapégeurs de ces sous-noyaux des Kalongé à territoire des Calais déplore le refus des billets des banques observés chez certains commerçants dans cette partie de la province du Sud Kivu. Dans un entretien accordé à Radio Maïdélo mercredi 5 août 2026, ces structures citoyennes soulignent que cette situation est plus observée lorsqu'un billet porte des traces de saleté ou lorsqu'il est légèrement déchiré. Il ajoute que les billets les plus refusés sont ceux de 500, 1000, 5000, 10 000 et 20 000 francs congolais. Cette situation pousse plusieurs familles à passer la nuit blanche, d'où l'appel aux commerçants d'accepter ces billets aux autorités qui contrôlent cette zone à s'impliquer pour réguler la situation. L'un des militants de ces mouvements à Kalongé, Kayumbu Nabuishaza Noël, en parle.
Partout dans le groupement de Kalongé, les refus des billets des banques se fait observer. Avec 500 francs, 1000 francs, 5000 francs, billets de 10 000 ou 20 000, portant des petites saletés, maillots de traces, avec des cols un peu déchirés, les commerçants ne parviennent pas à accepter de tels billets. Pourtant, aucune banque au Sud Kivu ou à l'Est n'est ouverte. Le mouvement citoyen au Bapéger de Sénat de Kalongé prie et demande aux autorités de bien vouloir ramener à la population à prendre sans condition de tels billets de banque, surtout que c'est un produit de la conséquence de la guerre à l'Est que cette situation s'est produite.
C'était la Kayumbu Nabuishaza Noël, l'un des militants du mouvement citoyen au Bapéger de ces sous-noyaux des Kalongé. Et avant la deuxième partie de cette édition du journal, disons que porter la collecte officielle à 50 tonnes d'or par an et réintégrer près de 8 milliards de dollars américains dans le circuit formel de l'économie congolaise, c'est l'ambition à la hauteur du potentiel orifère de la République démocratique du Congo de 2025 à 2030 à travers l'entreprise DRC Gold Trading SA qui attend faire de Kinshasa une véritable plaque tournante du trading d'or en Afrique. C'est ce qu'indique son directeur général Maître Joseph Kazibaziba au cours de l'entretien accordé à Radio Maïndéléo. À travers cette ambition, Maître Joseph Kazibaziba prévoit notamment la construction d'une raffinerie nationale certifiée au standard LBMA. Ces projets stratégiques visent à transformer l'or en un véritable moteur de croissance, de création de valeur et de développement. On écoute les chargés des communications et presse au sein de DRC Gold Trading SA, Jean-Pierre Kayembe, qui en parle dans ses propos.
La vision 2530 est une vaste ambition, un véritable projet de souveraineté économique pour notre pays. Savez-vous que pendant les 30 dernières années, notre pays, pourtant réputé comme étant l'un des plus grands producteurs d'or en Afrique, n'est capté officiellement que 25 kilos d'or l'an, pendant qu'il y avait des dizaines de tonnes qui échappaient au circuit officiel. Notre ambition est de capter autour de 50 tonnes d'or par an d'ici à 2030 et de réinjecter dans l'économie formelle environ 8 milliards de dollars américains.
La revue de presse, Radio Maïndéléo capte
vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux parissant à Bukavu et dans la capitale. Le refus des jeunes de certains regroupements politiques à participer à la campagne « Oui, je le veux » qui accompagne les changements de la Constitution et les plaidoyers des femmes pour prévenir les traites des êtres humains au sud Kivu font partie des sujets commentés par la presse mercredi 5 août 2026. Hélène Boudjeriri pour la revue de presse.
Commençons avec le Souverain Libre qui fait savoir que la ville de Bukavu est confrontée à une série de cas de personnes retrouvées mortes par pendaison, une situation qui suscite de nombreuses interrogations au sein de la population. Ces médias parlent d'un cas récent qui est celui d'un certain Antoine, âgé de plus ou moins 34 ans, chauffeur sur l'axe Walungu et habitant de la commune de Kadutu, qui a été retrouvé mort par pendaison dans sa maison le lundi 3 août 2026. L'acteur de la société civile, David Chikuru, cité par les Souverains, renseigne que les corps de la victime a été découvert dans la chambre au cours de la journée. Il a été transféré à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu pour des formalités d'usage. Sa ceinture lui a servi d'outil pour s'épandre, mais les circonstances exactes du décès restent à établir. Ces médias encouragent à consulter un psychologue, un psychiatre ou tout autre professionnel de la santé mentale. Il invite également les familles et les proches à rester attentifs aux personnes en souffrance, à favoriser un dialogue ouvert et sans jugement afin qu'elle puisse bénéficier d'un accompagnement adapté. De son côté, la prunelle RDC parle du secrétariat national de la jeunesse du regroupement politique, leadership et gouvernance pour le développement et alliés qui a exprimé son opposition à la campagne « Oui, je les veux » lancée par le ministère de la jeunesse et éveil patriotique en faveur d'une révision de la constitution de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration intitulée « Non, nous refusons », cette structure estime que les difficultés rencontrées par les jeunes relèvent davantage des politiques publiques que de la constitution. S'appuyant sur une citation du constitutionnaliste Philippe Ardan, souvent, c'est la volonté des hommes qui éloigne la constitution réelle de ses dispositions écrites. Le mouvement affirme avoir appris, à travers une vidéo devenue virale, les lancements de cette campagne coordonnée par la ministre de la Jeunesse. Selon ce mouvement, la ministre adopte dans cette communication une posture de militante politique plutôt que celle d'une autorité gouvernementale investie d'une mission institutionnelle. Les regroupements estiment également que les arguments avancés traduisent une confusion entre les dispositions constitutionnelles et les responsabilités relevant des politiques publiques, fait savoir la prunelle RDC. Bouclons cette revue de presse avec des femmes engagées dans la défense des droits humains qui appellent au renforcement des mécanismes de protection afin de prévenir la traite des êtres humains au sud Kivu. Selon les médias Jambo qui écrit, elles estiment que la protection des droits humains constitue l'un des principaux leviers pour lutter contre ces phénomènes en protégeant les personnes les plus vulnérables et en garantissant une prise en charge respectueuse des droits des victimes. Parmi ces défenseurs figure Solange Loachiga. Selon elle, les personnes en situation de vulnérabilité sont les plus exposées à ces fléaux. Elle cite notamment les femmes et les enfants vivant dans les camps des personnes déplacées dont les conditions de vie précaires les rendent plus vulnérables au réseau des traites. Pour Solange Loachiga, une approche fondée sur les droits humains permet de s'attaquer aux causes profondes de la traite. Elle regrette également que la traite des êtres humains soit encore largement négligée au sud Kivu alors que le phénomène prend de l'ampleur. Elle plaide pour un renforcement de la surveillance aux frontières afin de limiter les mouvements des réseaux criminels qui recourent à des fausses identités et contournent les règles en vigueur, conclut Jambo RDC.
Et voilà ce qui met fin en cette édition du journal, mesdames, messieurs, présentée par Myriam Momofano à Lanzara sur la mise en onde. Au revoir et prenez soin de vous.